franceinter.fr.
Bonjour, je reçois le metteur en scène et comédien italien Pippo Del Bono, personnage iconoclaste à la tête depuis plus de 20 ans d'une troupe unique de professionnels et d'amateurs. Il bouscule la scène qu'il veut totalement libre, pleine de musique, de danse, de silence aussi, de rage, à la frontière de l'art et de la vie. Pippo Del Bono raconte sa vie, la souffrance, le chaos, la perte de son premier ami Vittorio, sa séropositivité, la dépression, l'hôpital psychiatrique, la rue et tous ces acteurs qu'il a rencontrés au banc de la société, marginaux, devenus ses amis puis comédiens. Pippo Del Bono est à partir de ce soir au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris pour 5 représentations de Adesso Voglio Musica e Basta. À présent, je ne veux que de la musique et c'est tout. 5 spectacles, concerts qui jouent avec la musique, celle qui l'accompagne depuis son plus jeune âge puisque son père était violoniste et qu'il a toujours eu une relation très importante avec la musique. Bonne nouvelle pour nous, c'est l'occasion rêvée de découvrir cet écorché vif qui a reçu en 2009 le prix européen des nouvelles réalités théâtrales et qui joue partout dans le monde, y compris dans des pays en guerre comme l'Irak, la Bosnie, l'Albanie ou la Palestine. Bonjour Pippo Del Bono.
Bonjour.
Très heureuse de vous recevoir. Voilà. Vous êtes bilingue, donc c'est une chance pour nous.
Oui, c'est bien. J'espère que je parle bien français, mais bon, ça va.
Je crois. Alors, je le disais là en introduction, vous avez finalement entendu de la musique depuis toujours.
Toujours, oui. La musique, c'est quelque chose qui m'appartient dans mon corps, dans mon ventre.
Oui, jusque-là, jusqu'à ces profondeurs-là.
Ouais.
Votre père était violoniste?
Oui, mon père, il était violoniste, mais en même temps, c'est bizarre, parce qu'il faisait le violonisme quand il avait un moment de choisir qu'est-ce qu'il doit faire dans la vie. Il a décidé de continuer à faire un travail normal. Il avait peur de faire l'artiste.
Ah oui.
Il a vendu le violon. Il a été complètement, on pourrait, parce que le violon, où tu le joues, où tu le joues pas, tu ne peux pas jouer un petit peu. Et bon, j'ai dit la vérité qu'après, quand mon père, je l'ai commencé à, avant le violon, après il a pris un piano. Moi, je le vois petit à petit mourir. Je crois que ça, c'était aussi pour moi la décision de dire, bon, basta, je fais l'artiste et basta.
De voir votre père souffrir, d'avoir arrêté
d'être... Oui, d'avoir arrêté de faire le musicien pour la peur. Pour la peur.
La peur de ne pas pouvoir en vivre.
Pouvoir en vivre, pouvoir maintenir la famille, pouvoir toutes ces choses-là.
Alors... En plus, apparemment, votre père était lui-même un descendant.
Oui, on a cette histoire plutôt extraordinaire de la descendance de Niccolò Paganini. Le grand-père, la grand-mère de ma grand-mère, je me souviens un peu, il était Paganini. Et lui, il était musicien, qui jouait, il était dans un orphelinatoire. Et la chose intéressante, toute cette histoire, qu'après un docteur, il avait étudié la main de Paganini. Et Paganini avait un syndrome, c'était la syndrome de Marfan, qu'il avait les ligaments totalement mobiles. Il pourrait faire ce qu'il voulait.
De l'hyperlaxité,
oui,
en fait, hein.
Totalement. Il dit qu'il était, dans la génération, il restait. Lui, il est mort de cœur. Et après, il a vu ma soeur, il a dit, c'est hallucinant, vous avez complètement, parfaitement la syndrome de Paganini.
C'est-à-dire une souplesse comme ça.
Oui, hein. On a la main, moi je la peux mettre autour. C'est vrai que moi, mon père m'a fait commencer à jouer le violon quand j'étais petit, alors le solfège, je le détestais, uno, do, re, ah. Et alors j'étais échappé tout le temps de la musique. Moi, j'ai dit la vérité, que quand je prends le violon dans la main, il y a quelque chose qui
me reste quelque chose.
Oui, surtout quand j'écoute, moi j'aime pas quand je joue Paganini, parce que j'ai dit Paganini, j'imagine que Paganini c'est comme des schizophrénies de la tête, tu ne peux pas interpréter, parce que tu fais, c'est Paganini, si tu le joues, il y a un fragment de millésimes de secondes qui est déjà plus tard, qu'est-ce qu'il pourrait faire lui, c'est quelque chose qu'il pourrait faire seulement lui. Basta.
Vous pensez qu'il n'y a que Paganini qui
oui,
pouvait jouer
les... Je pourrais écouter seulement lui.
Bon, je vais vous proposer quand même d'écouter la 24e étude de Paganini par Itzhak Perlman, qui le fait, bah, vous nous direz si vous trouvez qu'il le fait bien. Moi, mon goût, c'est pas mal. C'est difficile de trouver une belle interprétation.
Oh.
Parce que c'est vrai que c'est aussi un morceau très... Enfin, ce sont des morceaux très, très virtuoses. Et on a dit pendant longtemps que personne, à part lui, ne pouvait les jouer. Mais certains violonistes y sont risqués. Je propose donc Itzhak Perlman qui interprète ce 24e caprice bien connu de Paganini avec ce pizzicato à la main gauche qui est difficile, mais je ne suis pas sûre que nous irons jusque-là.
Thank you.
Caprice numéro 24 de Niccolo Paganini, thème sur variation interprété par Itzhak Perlman, et je crois que ça vous a bien plu.
Bien, il est bien. Il me ressemble, je me permets de faire, c'est mon oncle.
Oui, je peux dire, c'est votre grand-oncle.
Quelqu'un dit, qu'est-ce qu'il veut, il me fait l'analyse aussi. Excuse-moi, je me permets un peu, mais il me ressemble un peu Paganini. Tu sais, quand tu te réveilles, je sais pas, moi, je me réveille à 4h de la nuit par raison des fois, tu te réveilles, tout d'un coup, tu dis, merde, toutes les choses, ils te ressemblent horribles. Alors, il parle, il commence la tête, les pensées, tout, 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 ils sont comme des lames, tout, là, c'est Paganini. Après, tu peux pas, relâche, bon. Et là, il vient comme ça. Après, tout, il repart, tu sais, c'est pas toi que tu décides en pensée. C'est les pensées qui partent. Pour raison, la deuxième part, je vais faire un peu plus fort.
Ah oui, c'était pas assez,
pas encore bien, mais c'est bien.
C'est bien, il lève pas main, vous êtes en progrès.
La seconde part, c'est plus la, il part plus la tête.
Pippo Del Bono, on parlait de votre père. Vous dites que vous pensez que votre père est mort d'avoir arrêté la musique. En tout cas, vous l'avez perdu très jeune.
Oui, oui, il avait mon père, il était 53 ans. Moi, j'avais 18 ans.
Ça a été apparemment une disparition, une première disparition très dure pour vous.
Oui, j'ai dit la vérité que c'était dans un âge que j'étais bien lié à la musique. J'allais faire tout le temps pour voir des concerts. Au début, je l'ai pas. J'ai pas souffert beaucoup quand il est mort mon père. Je dis la vérité, sincèrement. Et après, pendant les années, tu sais, les personnes quand ils sont mortes, tu les retrouves. C'était pas facile avec mon père. Je me souviens une fois que quelques jours avant, j'étais dimanche. Tout le temps, les personnes que j'aime, ils vont mourir le dimanche. On avait parlé seulement ces jours-là qu'il est mort le dimanche. On n'avait jamais parlé, moi et mon père. Parce que tout le temps, on avait une bonne relation. Une fois, on s'est donné des coups aussi. Une fois, lui m'a donné des coups. Il y avait une personne pleine de timidesse. Mais il était un poète. Il était une poète, ouais.
Et ce qui vous reste de lui, ce n'est pas en effet les caprices de Paganini, mais c'est cette fameuse lettre à Élise, la lettre à Élise de Beethoven.
Oui, la lettre à Élise de Beethoven, c'est notre morceau que mon père, quand il avait pris le piano, il faisait.
Qu'il avait vendu le violon, il a pris
il
le piano.
Il a pris le piano, alors la nuit, il est tourné au travail normal, il travaillait dans un hôpital, il faisait un travail économique comme ça. Il s'attachait, il commençait. Et je me dormais un peu tout le temps avec Père Élise.
Une ritournelle musicale que Beethoven a composée en 1810 pour une femme dont il était follement amoureux. Il a voulu l'épouser, elle l'a rejetée. Donc c'est resté dans des archives, cette fameuse lettre à Élise. En fait, elle s'appelait pas Élise, elle s'appelait Thérèse, cette femme qu'il aimait. Et en fait, c'est le musicologue Ludwig Noll qui l'a édité, a vu Führ. Et à la fin, S.E., et comme il avait quelqu'un dans sa famille qui s'appelait Élise, il a dit, allez hop, on l'appelle Führ Élise. Mais en fait, en vrai, c'était pour Thérèse.
Thank you.
la bagatelle en la mineur pour piano de Ludwig van Beethoven, appelée pour Élise, interprétée par Brigitte Engerer, pour parler avec vous, Pippo Del Bono, de cette passion qui vous tient depuis l'enfance pour la musique.
Vous avez dit classique ? Elsa Boublil sur France Inter.
Et dresser votre portrait à travers des rencontres musicales que vous avez faites et aussi des rencontres que vous avez faites tout simplement dans votre vie. Je pense à cette personne qui a été importante pour vous, Vittorio, dont vous parlez, qui est une relation amicale, passionnelle, amoureuse, déterminante.
Ouais, déterminante pour ma vie, parce que moi, tout d'un coup, quand j'étais dans les Boy Scouts, j'ai rencontré cet homme et on ne savait pas ce qui m'est passé. Je suis tombé. Après, je comprenais. Maintenant, je comprends ce que c'était. Mais à ce moment-là, on ne pouvait plus nous séparer. Et moi, j'ai commencé à faire tout avec lui. Tout. Et après, je ne sais
pas. Il était très différent de vous, c'est ça ?
Oui, totalement. Moi, c'était à part que c'était magnifique. Il est un garçon très beau, très beau. Et nous, on vivait dans un petit village. On avait chacun de son histoire. On avait la fiancée. Tu sais, un petit village. Un peu de la Provence italienne. Et petit à petit, bon, cette histoire, il est devenu une passion, il est devenu un amour. Mais bon, quand il a commencé à devenir une passion, il a commencé aussi à devenir fatigant. Mais bon, joli. Lui, il a commencé à faire des drogues. Moi, j'ai commencé à faire des drogues. Et lui faisait plus. Moi, je voulais pas mourir. Après, lui, il a commencé l'héroïne aussi. Là, je suis arrivé jusqu'à un moment, j'ai dit basta, je n'en peux plus. Et là, que j'ai commencé à faire du théâtre. Et après, lui, il me disait, je suis parti. Pour la France, avec Pépé, quand on s'est rencontrés. Et lui, il m'a dit, bon, tu dois aller en Grèce. Et j'ai été. Après, il est parti, il a eu un accident avec ma moto, un suicide, je ne sais pas pourquoi. Et après, moi, j'avais perdu le passeport. Et lui m'a dit, ah, tu as perdu le passeport. Après, c'est lui qui m'avait volé. Tu peux imaginer, c'était une histoire comme ça. Et alors, mon ami m'a fait dire, basta, je me jette. Avec lui, on était à voir tous les concerts de musique. Il avait la moto, la Vespa.
Vous alliez partout, dans toute l'Europe?
Partout, avant les Rolling Stones, les Lou Reed, tout, avec la Vespa. Moi, je faisais économie, j'étudiais un peu de loi derrière la Vespa. J'arrivais, tu peux imaginer, dans les concerts, on fumait beaucoup. J'étudiais un peu, parce que ma mère, je disais que j'étais étudié où. Et j'arrivais. Mais c'était des années extraordinaires, je dis la vérité, maintenant que, cette année, mais sont restées dedans mon stomac.
Alors, vous avez découvert les Rolling Stones, comme vous disiez, et quoi, Lou Reed aussi, enfin, plein de musiciens de l'époque. Ouais. Est-ce que Don Giovanni, ça date de cette époque-là aussi ou pas?
Don Giovanni, il est arrivé plus tard. Moi, j'ai commencé avec la musique classique, après je suis arrivé à l'rock, je me suis jeté dans l'rock. Frank Zappa, c'était ma passion, c'était mon...
Frank Zappa,
c'est mon mythe totalement. Frank Zappa, je connaissais tout, je pourrais chanter Absolutely Free. Et après, ils sont arrivés, choses comme Mozart, Don Giovanni.
Qu'est-ce qui vous plaît dans Don Giovanni et surtout la scène que vous avez choisie qui est quand
il
même
est aussi
telle,
dans mon dernier spectacle, je l'ai mis.
Qui est terrible, hein, c'est le moment
terrible,
où il est devant le commandeur avec Leporello qui est son valet.
Il y a quelque chose de théâtral, il y a quelque chose qui te parle de tout, de la pitié, de le pardon, tous les plans de tout ça.
La figure du père, de l'homme.
De l'homme, du père, il y a de la sensualité, il y a... Bon, je sais pas comment je vais m'expliquer.
Pas besoin d'écouter les paroles, la musique en elle parle.
La musique, ouais.
On l'écoute.
Thank you.
De Don Giovanni a Cenarteco de Wolfgang Amadeus Mozart, donc un opéra créé en 1787 par Mozart que vous avez mis en scène, Pippo del Bono.
J'ai mis en scène en Pologne et je dis la vérité qu'au début je ne la connaissais pas effectivement très bien et je suis arrivé à rencontrer les chanteurs. J'ai dit bon, je ne sais pas bien qu'est-ce que je vais faire. Il y a eu un grand scandale, la directrice a risqué de perdre le... Alors que tu ne peux pas dire que tu ne sais pas, je ne sais pas, moi, je n'ai pas des idées, j'attends. Et après, j'ai changé 3 Don Giovanni, 2 Don Anna, parce qu'il n'avait plus là, il est parti pour longueur et tout. Et moi, tous les matins, à 5 heures, je me mettais Don Giovanni dans les oreilles, et à 8 heures, ça va, c'est fini. Et je les connaissais tellement bien qu'après, j'ai fait en version... Tout, j'ai mis tout la voix, tout la plus longue. Et c'était une belle expérience. Il y avait Bobo, le petit sourd-muet en alphabet.
Que vous avez rencontré.
Ouais, dans un hôpital psychiatrique. Et quand il lui avait déjà fait Cavalleria Rusticana, qu'il était magnifique, il était figurant, ma protagoniste, il avait des scènes seulement lui, faisait les figurants. Et aussi Madame Butterfly. Et après, lui, il est arrivé là en Pologne, il peut dire, il semblait un peu le jour, il a regardé, c'est qui, c'est Nana. Et j'ai dit, bon, c'est un grand acteur, bon, restez là. Et après, 3 jours avant de la première, j'ai une idée, j'ai dit, bon, Bobo, on peut mettre avec Bobo, c'est un transformiste, il s'est transformé. On a mis les vêtements de Mozart, il ressemblait à Mozart, totalement Mozart. Et alors, le deuxième acte, il y a Bobo dans une installation un grand écran, un grand cadre. Il y a Bobo Mozart qui regarde le public. Il était tellement fort qu'à la fin, les acteurs m'ont dit tout le monde il regarde seulement lui. Je dis oui, c'est vrai. Il ressemble à Mozart aussi, Salieri, un petit peu.
Salieri et Mozart. Pippo del Bono, quand vous avez appris la mort de Vittorio, vous étiez à ce moment-là avec Pepe Robledo, ce metteur en oui. scène argentin, qui vous a initié, je crois, aux techniques du théâtre oriental.
Oui, c'est un acteur argentin qui m'a commencé à introduire à la technique de théâtre oriental. Cioè que le théâtre oriental, c'est la technique du corps, de la danse. Dans l'Orient, surtout dans la tradition plus vieille et ancienne de l'Orient, la danse et le théâtre sont la même chose. L'acteur, il est un danseur. Totalement. Et alors, il y a une grande technique, il est millénaire, la technique du samouraï, du théâtre kabuki, du théâtre no, que Pepe, il a pris en Danemark. Et alors, moi, j'ai commencé à travailler lui, je suis entré dans son groupe en Danemark. Et je peux dire que beaucoup, beaucoup des années, j'étais complètement dans cette histoire de l'acteur, de la tradition orientale du théâtre.
Et avec cette vie ponctuée de moments assez douloureux, puisque vous avez perdu Vittorio, je crois que vous avez peu de temps plus tard appris votre séropositivité.
Ah oui, ça aussi c'était... Parce qu'il est arrivé, évidemment, il est arrivé dans les temps de Vittorio, parce qu'à ce moment-là, on ne savait encore rien.
Alors, au début des années 80.
Ouais, c'était là qu'il m'arrivait. Moi, je l'ai découvert dans les 89. C'est un moustique qui m'a fait. J'étais au Mexique dans une tournée, il m'a piqué un moustique, j'ai pris la malaria. Je suis arrivé, je me suis bien, j'ai pris tous les médicaments pour la malaria, j'étais bien.
La malaria.
Et j'ai dit, le docteur qui s'appelait Del Bono, comme moi, il m'a téléphoné, il m'a dit, on a fait l'examen, vous êtes séropositif au sida. Oh, j'ai dit, je suis resté, c'était comme, qu'est-ce qu'il est passé? Je sais pas, j'avais fait un peu des choses, mais pas, qu'est-ce que c'est? Et c'était des années réellement pas difficiles. Après, j'avais plus de défense immunitaire. Non, c'est Ramon, il a commencé 10 ans, des Ramon de lutte. Et c'est, mais non, ça va. C'était drôle parce que Del Bono, le docteur, il m'avait donné 1 an de vie. Bon, maintenant, on est déjà plus 25.
Un an de vie en 89.
Oui, maintenant, on est déjà 2016. Ça va, je dois faire un peu des diètes, mais ça va.
En tout cas, beaucoup de larmes ont coulé, je crois, à ce moment-là.
Beaucoup de larmes.
Pippo Del Bono. Alors, je propose qu'on écoute le Lacrimosa du Requiem de Verdi. Vous savez, ce moment où les larmes ont le droit de couler. Ouais. Et Verdi, lui, a composé ce Requiem pour pleurer son ami Alessandro Manzoni, qui, vous savez, s'était engagé pour l'unité italienne. Au sein du Risorgimento, dans un idéal de justice et d'humanité.
Thank you.
messe de Requiem de Giuseppe Verdi, le Lacrimosa, interprété par Christine Lewis, soprano Violetta Ulmania, mezzo-soprano Piotr Biechala, ténor, et Ildar Abradazakov, basse, avec le chœur de l'Opéra de Paris et l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, dirigé par Philippe Jordan.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Et puis, Pippo Del Bono, vous avez rencontré Pina Bausch.
Ah oui, ça c'était un autre moment extraordinaire de la vie. J'étais à Wuppertal, j'ai vu son spectacle Ariel dans l'eau. Et je suis resté complètement pas. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté là, j'ai commencé un voyage. Et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, c'était les 87, j'ai retourné dans une tournée en Sud-Amérique. Et j'ai pris un herpès dans les yeux. Et j'étais tellement attiré, je voulais voir tous les soirs le spectacle de Pina. Et alors, j'étais pas bien d'auteur, ils sont restés des cicatrices dans ces yeux-là qui sont encore là. Et alors, je voyais tout comme dans l'eau. Et
donc, trouble.
Trouble. Dans les yeux. Et je voyais un spectacle dans l'eau, et mes yeux qui regardaient comme l'eau. Et après moi, je suis parti, et j'ai rencontré Pina. Et je me souviens que j'ai raconté l'histoire de les yeux, et il m'a mis la main sur les yeux, et m'a dit, oh, mais tu as vu seulement un spectacle, il y a beaucoup, hein. Et bon, là, il a commencé l'histoire. Jusqu'à les 87, c'est un grand moment, une période à travailler dans la compagnie, il a connu Bobo, il a invité nous, dans chez elle, on est restés amis jusqu'à la fin, ouais.
Alors, je vous propose, puisque vous aimez aussi les arts orientaux, je vous propose qu'on écoute Jun Miyake, le compositeur japonais, qui a écrit beaucoup pour des chorégraphies de Pina Bausch, et qui a écrit également certaines musiques du film de Wim Wenders, vous savez, Pina, danser, le titre c'est Pina, danser, sinon nous sommes perdus. Et je propose qu'on écoute un des titres de cette bande originale du film, c'est Lilies of the Valley. Thank you. Lilies of the Valley, composé par Jun Miyake pour le film de Wim Wenders, Pina. Danser, 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 sinon nous sommes perdus. Et c'est une musique, en effet, Pippo Del Bono, très chorégraphique, on peut dire les choses comme ça.
Oui, 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 totalement. Il est bien pour Pina. Il est... Parce que après, c'est du classique, c'est de la moderne, c'est du contemporain. Et là, c'est plus comme Pina, tu ne sais jamais de mettre dans un genre.
Dans un genre. Alors ouais. Vous, Pippo Del Bono aussi, vous ne, on ne peut pas vous mettre dans un genre.
Ah ouais.
Et la part chorégraphique a sa place aussi dans ce que vous faites au théâtre.
Ah oui, totalement. Moi, j'ai la chose que je suis plus convaincu quand j'écoute, bah, c'est la musique et la danse. Ça, je sais quand les personnes rentrent un peu d'eau, un peu plus tard, une seconde. C'est évidemment la formation orientale, il m'est resté. Le sens des choses, ils sont tellement difficiles de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, les choses. C'est tellement difficile de comprendre le monde, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qui passe autour de nous. Et alors, je préfère, écoutez, penser avec la dramaturgie de la musique et de la danse.
Donc, voilà. le corps et finalement le silence.
Le corps, le silence, ça c'est... Parce que sinon, dans mon compagnie, il y a des personnes, par exemple, Bobo, qui ne parlent pas.
Mais il est sourd et muet, lui.
Il est sourd et muet, analphabet, il a passé 47 ans dans un hôpital psychiatrique. Mais quand il est sur le plateau, il est extraordinaire. Il peut faire ce qu'il veut. Avec son corps, puis il communique avec tout le monde.
Alors,
il écoute la musique, il n'écoute pas... Il n'écoute pas rien, mais il écoute la musique.
Et alors, justement, dans cette troupe, Pippo Del Bono, ce sont des gens que vous avez rencontrés après avoir fait une très grande dépression, quand vous avez appris votre...
Oui, Bobo, il est né quand moi, dans les 96. Je suis entré dans une dépression hallucinante. Parce que c'était le moment que je cherchais tous les médicaments.
Alors, médicaments tu vois,
pour la sérotonine. Alors, quand il y a la tête un peu comme ça, avec le comme capricci di Paganini, mille idées. Si tu les jettes dans l'art, ça va. Mais si tu les commences à jeter dans les possibilités des médicaments, tu deviens fou. Et je suis devenu fou. Je faisais toutes les thérapies possibles. Tu vois, c'est devenu un jeu hallucinant. Tout me proposait des barres pipi absurdes, surréales. Je faisais tout, médicaments, homéopathiques, tout. Et après, je suis perdu. Je suis entré dans une dépression hallucinante. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Il m'avait proposé de faire un stage dans un hôpital psychiatrique. Ma psychiatre m'avait proposé d'aller dans l'hôpital. J'étais là, et là, je faisais un stage pour, j'étais complètement pour eux. Et j'ai trouvé ces petits hommes, sûrement un alphabet, qui venaient tous les jours, avec des autres personnes. Ils m'attendaient tous les matins avec un drapeau sur la porte de l'hôpital. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut? Le psychiatre m'a dit, lui, il veut pas prendre avec toi. Je le prends avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, enfin, cool, excuse-moi. Ça, je l'ai fait. Tant quand tu es à la fin du monde, tu dis, je suis à la fin de la vie, je le prends. Et tant c'est plus mal que qu'on sait, on est partis les deux. Et lui, il n'avait jamais sorti dans l'hôpital psychiatrique.
47 ans, ouais. Dans un hôpital psychiatrique.
Il avait 61 ans, à part que je me suis rendu compte qu'il était magnifique, il faisait des mouvements avec le corps, c'était une poésie. Une poésie hallucinante. J'ai dit, bon, c'est moi que je suis fou, moi, je me ressens. Et c'était drôle parce que je suis sorti, il volait le chewing gum de l'autogrill, il faisait tout. J'étais tellement préoccupé de cet homme, il arrêtait les gitans, il volait payer, il faisait tout. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? Et un jour, je me souviens, le premier jour que j'avais, 3 jours que j'étais avec lui, je lui dis, ah, j'ai oublié l'antidépressif. Et après, petit à petit, je l'ai oublié. Et après, bon,
vous avez arrêté les antidépresseurs.
Je suis comment je peux dire? Bon, c'est pas que je suis très normal, mais ça va. Je repris totalement ma vie. Alors, je dis, bon, Bobo, moi, j'ai sauvé Bobo. Moi, Bobo, il m'a sauvé, moi. Hein. Oh, oui, oui.
Vous vous êtes sauvés mutuellement. Et oui. Après, vous avez rencontré d'autres personnes sur votre
route. Oui, j'ai rencontré Jean-Luc, j'ai rencontré Nelson, qui était un clochard, que j'ai rencontré dans la rue. Et après, dans une fois, je l'ai rencontré, j'ai dit, vous voulez venir à faire un peu de choses à Florence, on veut donc d'en manger. Il dit, oui, ok, d'accord, je monte. Et il est monté sur la voiture. Bon, ce sont des acteurs, maintenant, qu'on peut dire, après 20 ans, qui sont des grands professionnels. Parce qu'ils sont une précision hallucinante.
À 30 ans.
La folie et la précision, il a. C'est pour ça qu'ils sont avec moi. Il a les deux.
Et le sens, j'imagine, aussi du corps, puisque on en parlait à l'instant, hein, Pippo Del Bono, oui, c'est très
totalement
important.
Totalement, le corps, quand le corps de Bobo il devient la seule façon de s'exprimer avec les autres, chaque signe, il devient fondamental. Dans chaque signe, il y a la naissance, la mort, dans chaque signe. Tout ce qu'il y a dans la grande histoire de la tradition orientale, je l'ai trouvé chez Bobo.
Et voilà. Alors, c'est peut-être pour ça que vous aimez le Sacre du Printemps de Stravinsky, qui intègre parfaitement parfaitement l'élément chorégraphique dans la musique. Hein. Stravinsky avait affranchi le rythme de son rôle traditionnel pour en faire un élément de façonnement formel. Et l'orchestre tout entier est utilisé comme un instrument à percussion, avec des accents musicaux qui ne correspondent pas au temps fort qu'on l'on attend d'habitude dans la musique. Et donc là, la musique devient un battement. Et j'imagine que pour danser ou pour s'exprimer dessus, c'est absolument parfait.
Parfait.
On l'écoute dirigé par Pierre Boulez. Le Sacre du printemps d'Igor Stravinsky, dirigé par Pierre Boulez, et c'est par l'orchestre de Cleveland, et qui est une musique pour vous, Pippo Del Bono, qui serait peut-être presque symbolique de ce que vous recherchez.
Ben, c'est maintenant quand je l'écoute, je vois totalement, je vois ça, je vois la nature, je me vois un réveil, je vois le soleil qui coule, je vois les animaux, je vois les vers, je vois le vent, je vois tout. Et chaque note, mais donc, c'est une image visuelle de quelque chose qui est totalement en harmonie avec quelque chose qui appartient à la nature. Ça, c'est la musique. C'est trouver la colonne sonore de la nature.
Et la couleur sonore de la nature.
La colonne sonore de la nature. Et là, je suis complètement... Je vois tout, les petits, les formes, tout. J'arrive à une explosion de ça. Et là, c'est... Qu'est-ce qu'on peut dire? Rien.
Et alors, pour faire le lien avec Frank Zappa, parce que Pierre Boulez, comme vous, a bien apprécié Frank Zappa au point de le diriger.
C'est vrai.
Il l'a dirigé. Ah. Et je voulais savoir, vous, ce qui vous plaisait dans la musique de Frank Zappa. Vous disiez, c'est mon dieu, non? Pas loin de ça, en tout cas.
Bon, enfin, Zappa, c'était quelqu'un... Moi, j'ai fait un parcours avec lui. La première fois qu'un ami m'a fait écouter Absolute Free, j'ai dit, Mamma mia, c'est pas simple. Mais après, je les connaissais à mémoire. Mais,
il y avait. Absolument.
Absolument. Free, il y avait tout. Oh, mamma mia, combien de One Size Fits All. Je me souviens de tous ces disques. Frank Zappa, il était une personne qui était, il avait une autre façon de ça, mais il vient de l'histoire de Varese, de la musique contemporaine.
Edgar Varese.
Il avait,
oui,
lui aussi, une façon d'harmoniser le monde. Alors, lui, il donnait à tout. Alors, le monde harmonisé pour Zappa, il devenait du punk, du rock, du jazz, du reggae, du blues, devinez tout. Zappa faisait, pourrait prendre une guitare et jouer un morceau comme Sleep Dirt, you know, tan, 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 avec une poésie extraordinaire. La chose magnifique de Zappa, qu'il n'était pas sentimental, il était lucide.
C'est sans doute pour ça que Pierre Boulez s'est intéressé à sa musique. Le voici avec l'ensemble intercontemporain qui interprète Dupree's Paradise. Praise Paradise de Frank Zappa, interprété par l'ensemble intercontemporain dirigé par Pierre Boulez. Pour vous, Pippo Del Bono, pour écouter cet aspect aussi peu connu de Frank Zappa.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Et on finit avec ce que vous allez nous proposer à partir de ce soir et jusqu'au 2 avril au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Pippo Del Bono, adesso voglio musica e basta. À partir de maintenant, je veux de la musique et rien d'autre, c'est ça?
Oui, c'est ça. Quand je suis ici dans votre transmission, je comprends pourquoi je vais manger. Avant, je suis venu avec un peu la digestion. Normalement, si je devais parler de théâtre, je me dormais. Avec la musique, je suis complètement réveillé. C'est pour ça, il fait du bien.
Donc, c'est un spectacle musical, plusieurs spectacles musicaux, en fait, ouais. sur plusieurs soirs, comme vous avez l'habitude de faire, d'ailleurs, hein, de mélanger plusieurs univers. Vous pouvez nous en dire deux mots?
Ce sont trois spectacles qui ont un parcours différent. Le premier, c'est Amore et Carne, avec Alexandre Balanescu, qui est un violoniste romain, et bien, qui est bien forte, un peu dur, mais elle est bien forte, Alexandre.
Là, je l'ai rencontré. On revient au violon paternel,
oui,
donc.
Oui, violon paternel. Alors, des fois, je me fâche avec lui, comme mon père. On n'a pas résolu. Alors, moi, par exemple, quand je sens la musique des Halles, tout d'un coup, il m'arrive le son, il m'arrive la voix. C'est comme la musique qui m'amène. Après, il y a l'autre concert qui s'appelle Sangue, qui est autour du viaggio d'Edipo.
Autour du viaggio d'Edipo.
Edipo, qui l'échappe après qu'il a... il a tué son père, il fait l'amour avec la mère, il échappe, il est exilié. Et tout le monde, il les rechasse comme ça. Il a deux filles, il y a Petra Magoni et il a les fantines
qui sont... Petra Magoni, la chanteuse.
La chanteuse, et il a les fantines qui jouent l'instrument ancien. Et là aussi, on fait un voyage avec ces deux filles, et je dis la vérité, que on s'amuse beaucoup. L'énergie féminine, c'est bien. Et on fait ces concerts à travers le voyage d'Édipo. Et ce sont des chansons aussi, des chansons d'italien que moi je chante aussi avec Petra. Et le troisième, c'est Coltès, la nuit avant de la forêt, ma version, que son frère François m'a dit, bon, Pipo, tu peux faire ce que tu veux.
Alors, de Bernard-Marie Coltès,
oui,
hein.
J'ai levé un peu des choses, j'ai fait un peu, mais c'est une version musicale. C'était Coltès avec de la musique. Ce sont trois expériences différentes. Il y a une chose qu'il a commis, je me suis rendu compte aujourd'hui. Le thème de l'exil. Sont-tu des choses qui parlent, on parle tous les trois des exiliés, des réfugiés, des émarginés. Tu vois, il y a
des marginaux.
Des marginaux. Je dois pas, je sais pas encore si je le fais en français ou en italien. Coltès, je crois que je le fais en italien.
Pour la musicalité de la langue,
oui,
puisque c'est
mieux,
une langue
c'est
très musicale
simple,
aussi.
Ouais.
En tout cas, nous, on va écouter un peu de Petra Magoni, qui a fait un très beau duo avec le contrebassiste Francesco Spinetti. Et on va les écouter là, dans leur groupe Musica Nuda, et l'album Complici, avec cet air de Bach que vous le connaissez, et donc qu'ils ont appelé Bach Air.
Song of love is never done, never, never long. Before the love that brings the dawn, before the love that brought the sea and the sunlight together in splendor. When first life was born, one song of love is never done, never, never, never long. Before the love that brings the dawn. Before the love that brought the sea and the sunlight together in splendor when first life was born. Under the wandering sky, all to find, you understand the man who's torn, forlorn, and scorned, but knows the song that sings on the darkest night. Measured all in all, no greater wonder surely. Beyond recall, song, song of love, song of old, never done. Perfect promised destiny, sure to be. For you and me, one perfect theme, one song sings through the ages, and merrily it sings in me.
Petra Magoni et Ferruccio Spinetti qui interprétaient Bach Air, extrait de leur album Complici, pardon, et c'était le groupe Musica Nuda. Un grand merci à vous, Pippo Del Bono. Je rappelle que vous êtes ce soir et jusqu'au 2 avril au Théâtre des Bouffes du Nord pour plusieurs spectacles qu'on a hâte de voir. Amore e carne, il sangue e la notte, jusqu'à samedi, donc à Paris, au Théâtre des Bouffes du Nord. Un grand merci à vous d'être venu.
Bien, merci. merci à vous.
Et puis à bientôt.
Ok, ciao.
Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster, sur le site de franceinter.fr, à la rubrique Vous avez dit classique. Merci à Marie-Annick Rimbaud, Camille Poux, Jalaguier, Claire Destacan, Ronan Mahé. Demain, nous recevons le réalisateur Bruno Mont-Saint-Jean pour parler du grand Yehudi Menuhin. Coucou, Charline Van Hoenacker.
Bonjour, Elsa Boublil.
Alors, vous avez une grande actrice.
Ah oui, nous sommes en compagnie de Sandrine Kiberlin jusqu'à 18h. Elle vient nous présenter un très beau film, Quand on a 17 ans, c'est le dernier Téchiné.
Eh ben, je vous souhaite une très belle émission.
Merci Elsa,
ciao.
À tout de suite.